abondamment. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu ensemble ce matin dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 32. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Nous allons au verset 16. Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Verset 24. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, comme toujours, mais vraiment non pas comme une habitude vaine et inutile, mais parce que pour nous, nous considérons que ta parole est un précieux trésor. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides dans ce temps de méditation, que les uns et les autres, nous puissions être attentifs à ce que tu as à nous dire. Tu ne parles jamais en vain, et nous savons aussi que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir produit son effet. Seigneur, je te prie, ouvre nos cœurs et donne-nous d'être réceptifs, que ta grâce, qui est notre partage et qui nous a permis de nous tenir devant toi dans la louange et dans l'adoration, soit encore à l'œuvre pendant ce moment où ensemble nous méditons ta parole. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te rendons grâce ensemble dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais commencer par vous dire, mes frères et sœurs, que le titre de ma méditation ce matin, c'est « Les trois épreuves d'Ézéchias ». Et j'aimerais précisément que nous soyons attentifs à ce que ce texte nous révèle des souffrances qui ont été endurées par cet homme de Dieu remarquable, dont le nom signifie « L'Éternel est ma force ». Il avait un compagnon de service, c'est le prophète Ésaïe, qui était donc un contemporain de cet homme, et au travers de la grâce de Dieu, ensemble, ils ont pu voir la force de l'Éternel se déployer pour les secourir dans des moments qui étaient extrêmement difficiles. Alors, la première épreuve sur laquelle nous allons nous arrêter dans un premier temps, c'est l'attaque d'un ennemi terrible qui est l'Assyrien Sanchérib. Cet homme était disposé à détruire, anéantir la ville de Jérusalem. Il est venu avec un grand orgueil, avec beaucoup d'ambition dans son cœur. Il était sûr de pouvoir écraser le peuple de Juda, mais cela, c'était sans compter sur le secours de l'Éternel et sur la fidélité de Dieu qui ne laisse jamais tomber ceux qui se confient en lui. Et Ézéchias a bien réagi au moment où il a appris que cette attaque sournoise, terrible, eh bien, s'approchait de la ville de Jérusalem. Il a immédiatement demandé à des hommes de confiance et des chefs militaires de se rassembler autour de lui. Et il leur a dit quelque chose qui me paraît extrêmement important. Il leur a dit, pourquoi est-ce que l'Assyrien qui va nous assiéger trouverait de l'eau en abondance, tandis que nous, nous mourions de soif à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Alors il leur a dit simplement, mettons-nous à l'œuvre et rebouchons toutes les sources qui amenaient l'eau jusqu'à Jérusalem. Entendez bien que reboucher les sources, ça n'était pas les tarir, mais c'était simplement les couvrir de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas les voir. Et par toutes sortes de canalisations qui en demandaient d'ailleurs un travail intense de la part des habitants de Jérusalem et aussi de la part du roi Ézéchias, eh bien l'eau est arrivée jusqu'au cœur de la ville de Jérusalem. Et il y a ici quelque chose sur laquelle je voudrais m'arrêter un instant. Voyez-vous, mes frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes ne sait pas que nous avons, nous, une source intarissable. Et dans un certain psaume que vous devez connaître certainement, il est dit ceci, « Toutes nos sources sont en toi ». C'est le psaume 83 et au verset 7 qui dit cela. « Toutes nos sources sont en toi ». Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, qu'un christianisme ou une église qui n'a pas sa source dans une réelle communion avec le Seigneur ne pourra jamais tenir en face des attaques de l'ennemi de notre âme. Je ne voudrais décourager personne, parce que nous avons une promesse dans la Bible qui nous rappelle que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous, mais à une seule condition, c'est qu'individuellement, chacun d'entre nous, nous soyons capables de rechercher une telle intimité avec le Seigneur que jaillisse à l'intérieur de nous-mêmes, selon la promesse de Jésus, la puissance, le fleuve du Saint-Esprit, qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui donne le courage, nous communiquant un esprit de victoire, parce qu'en face de l'ennemi, si nous sommes livrés à nos forces naturelles, nous ne pouvons pas tenir. Mais quand nous comptons sur le secours de Dieu, alors nous pouvons voir le Seigneur faire des choses étonnantes, des choses surprenantes, car Dieu est infiniment grand et il est infiniment puissant. Et quand, justement, eh bien, Ézéchias a pris conscience du danger en laissant les sources ouvertes à la merci de l'ennemi. Il a pris cette décision, il a agi en homme sage. Il ne voulait pas que l'ennemi puisse dire, comme il a prétendu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous invite à lire tous ces passages, cette fois en entier à la maison, il a prétendu que les sources lui appartenaient. Le monde n'a pas de source qui puisse nous satisfaire. Il prétend avoir la source du bonheur pour chacun d'entre nous, mais c'est du mensonge. Il n'y a pas dans les plaisirs de ce monde ceux qui puissent satisfaire notre âme. Il n'y a que l'action du Saint-Esprit dans notre vie et dans notre cœur, une action quotidienne quand nous sommes à la recherche de cette communion avec lui, dans la méditation de la parole de Dieu, que nous pouvons recevoir à l'intérieur de nous-mêmes tout ce qui nous dynamise, nous remplissant d'enthousiasme, afin qu'au lieu d'être écrasés par les paroles mensongères de l'ennemi, nous puissions au contraire vivre dans une pleine et totale victoire, parce que comme je l'ai entendu de la bouche de plusieurs ce matin, la victoire appartient au Seigneur, non pas à un homme, mais au Seigneur. Ça, c'était le premier point. Mais dans même cette première épreuve, qui consiste à faire face à un ennemi implacable, eh bien, Ézéchias ajouter une autre action. D'abord, il a mis le peuple à l'abri de la soif. Et deuxièmement, il a parlé à ses hommes qui l'entouraient et il leur a dit « Reconstruisons la muraille. Ne laissons pas de brèche par le moyen desquelles l'ennemi pourrait pénétrer jusqu'au cœur de la ville de Jérusalem. » Et en reconstruisant ces murailles là où il y avait des brèches, il a fermé la porte à l'ennemi. Et il a ajouté quelque chose d'autre, il a donné des chefs militaires au peuple. Tout cela était la preuve de la sagesse qui était le partage de cet homme qui vivait dans une relation étroite avec Dieu. Je voudrais simplement, avant d'aller plus loin, vous faire remarquer qu'Ézéchias a est monté sur le trône de Juda à l'âge de 25 ans. Il a régné pendant 29 ans, mais il est dit de lui une chose exceptionnelle. Il est dit, il fit tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David l'avait fait. Et je remarque que pour tous ses prédécesseurs, ce détail-là n'est pas dit. Par exemple, il est dit de son premier prédécesseur qu'il fut exactement fidèle, accomplissant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son père l'avait fait. Et puis la chaîne continue, et le père en question, lui aussi a agi comme son propre père l'avait fait. Puis après, il y en a encore un autre, et il est dit, mais celui-là, il a fait ce qui est droit à l'Éternel, toutefois, non pas avec un cœur entier. Et ça, pour moi, c'est très important. Dieu a en horreur les cœurs partagés. Et quand on n'est pas avec un cœur entier, alors nous pouvons nous trouver en danger. Mais en ce qui concerne Ézéchias, lui, il a fait tout ce qui est droit, comme au commencement, même pas comme ses prédécesseurs, mais comme au commencement du temps de David, de ce règne qui était plein de gloire, parce que David avait été placé par Dieu lui-même sur le trône d'Israël, sur le trône de Juda d'abord, et ensuite sur le trône d'Israël dans son ensemble. Pour nous, ça devrait nous parler. Voyez-vous, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à imiter une dénomination, quelle qu'elle soit, mais nous devons rechercher ce qui est au commencement. Et ce qui est au commencement, c'est ce qui se trouve mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on voit comment, eh bien, Dieu a agi au travers de ces hommes qui étaient abandonnés, livrés, sans réserve, consacrés à Dieu, ne comptaient pas sur eux-mêmes, mais s'appuyaient sur Dieu, sur les promesses qu'il avait faites, et remplis du Saint-Esprit, ils accomplissaient ce que vous et moi, nous avons soif de voir se réaliser à l'heure actuelle. Surtout que nous savons, le Dieu que nous servons, il ne change pas. Il est toujours le même. Ce qu'il a été à cette époque-là, il l'est encore aujourd'hui. Et la raison pour laquelle il n'agit pas au travers de nous comme nous souhaiterions le voir agir, ce n'est certainement pas parce qu'il y a eu un changement en lui, mais en nous, oui. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre conscience qu'il y a des brèches que nous devons colmater. Ces brèches, moi, je pourrais en citer quelques-unes depuis cette estrade ce matin, mais à quoi pourrait servir cela ? Si l'Esprit de Dieu ne mettait en relief dans chaque vie et dans chaque cœur ceux qui ne glorifient pas Dieu, ceux qui sont là comme un obstacle majeur à la bénédiction de Dieu et un moyen par lequel l'ennemi s'infiltre pour enlever la paix, détruire l'Église, détruire l'Assemblée et montrer qu'il est encore à l'œuvre puissamment, alors que nous, nous savons dans le fond de notre cœur qu'il a été vaincu par le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Chacun d'entre nous, nous devons pouvoir nous examiner devant Dieu et lui dire, où se trouve la brèche dans ma vie ? Où se trouve-t-elle ? Peut-il y avoir un manque de pardon ? Et la Bible met en relief que ceci est extrêmement grave, parce que la Bible ne nous cache rien de la volonté de Dieu. Et c'est bien Dieu lui-même qui dit que si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être pardonnés. Mais je pourrais ajouter tant et tant d'autres choses qui sont dissimulés comme cela dans les replis de notre cœur et qui constituent autant de brèches. L'orgueil, la confiance en soi, cette sorte de vanité qui nous fait penser que nous sommes meilleurs que les autres. En quoi sommes-nous meilleurs que les autres ? Comme c'est bien de nous rappeler, comme nous avons pu le chanter ce matin, que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que c'est par grâce que nous sommes maintenus encore en vie et que nous pouvons marcher selon le conseil de Dieu. Donc, soyons attentifs à cela. Et si Ézéchias, dont le nom est l'Éternel et force, a reçu en face de chaque épreuve qu'il a traversée, nous en verrons trois ce matin, eh bien, toute la sagesse nécessaire pour ne pas laisser l'ennemi triompher, nous pouvons aussi, eh bien, espérer avec tout notre cœur que le Seigneur ne nous abandonnera pas et que si nous dénichons tous les endroits où le malin se cache et que nous, dans notre propre vie, nous réglons les moindres détails pour que notre relation avec Dieu ne soit pas coupée, eh bien, le Seigneur nous aidera à triompher. Le deuxième point, eh bien, c'est justement le fait qu'il ait établi des hommes qui avaient une charge et une responsabilité. Et il l'a fait comme ça, en comptant sur le secours de Dieu, et il aura communiqué cette sorte d'espérance, de force, d'enthousiasme, malgré la frayeur que pouvait susciter l'ennemi Sanchérib qui s'approchait de plus en plus avec une armée extrêmement redoutable, avec une multitude de soldats. D'ailleurs, dans son orgueil, Sanchérib disait « Qui pourra me résister ?» Il avait déjà triomphé tant de fois. Il avait vaincu tellement de peuples. Il avait vaincu tellement de villes. Il pensait que Jérusalem ne résisterait pas. Et d'ailleurs, il s'enorgueillit au point de dire à ce peuple qui se trouve à l'intérieur des murailles « Ne pensez pas que la main d'Ézéchias pourra vous secourir. » Mais ce n'était pas Ézéchias qui allait délivrer le peuple et secourir le peuple. C'était le Dieu Tout-Puissant en qui Ézéchias avait placé sa confiance. Et ces hommes dont il s'est entouré, il leur a communiqué cette sorte d'enthousiasme. Et vous avez entendu avec moi en lisant ce texte qu'à un moment donné, Ézéchias dit « Ne craignez pas !» Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Avec eux, il y a une main de chair, mais avec nous, il y a la main de l'Éternel. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons besoin de retrouver cette assurance que le Dieu que nous servons et que nous aimons, que nous suivons en obéissant à sa parole, il est plus fort que l'ennemi de notre âme, plus fort que tout ce qui peut se dresser devant nous. Et d'ailleurs, ça a été un encouragement pour le peuple. Il a fait part d'ailleurs de ses craintes très humblement à un de ses serviteurs très nobles duquel j'ai déjà parlé. Il s'agit pour lui de ce prophète Ésaïe, dont il est allé chercher le secours en lui demandant de prier avec lui. Et il est dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Est-ce que vous vous souvenez, frères et sœurs, d'avoir lu dans l'Écriture, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et ils en ont fait l'expérience. Mais il y a eu la deuxième épreuve. L'ennemi d'abord, la deuxième épreuve, la maladie. Il est dit qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort et il fit une prière à l'Éternel. J'ai oublié de vous dire, le récit qui nous rapporte l'histoire d'Ézéchias se trouve mentionné 3 fois dans la parole de Dieu. Vous avez le 2e livre des Rois au chapitre 20, vous avez le texte qui se trouve sous nos yeux dans les 2 Chroniques au chapitre 32, et puis dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 37, 38 et 39, vous avez encore une fois l'histoire d'Ézéchias avec tout ce qui lui est arrivé, qui nous est rapporté. 3 fois. Vous savez, dans, je dirais, pas les habitudes, mais dans la tradition hébraïque, quand une chose est répétée 2 fois, ça veut dire que notre attention doit être attirée par cela. Par exemple, nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans la bouche du Seigneur Jésus, « en vérité, je vous le dis ». Et quand il prononçait cela, c'était comme pour attirer l'attention particulièrement de ses auditeurs. Mais dans les mêmes pratiques hébraïques, lorsque 3 fois une chose est répétée, ça veut dire qu'il doit y avoir une attention très grande et une leçon importante à retirer de ce que l'on entend ou de ce qu'on lit. Je veux dire par là que si cette histoire a été répétée 3 fois dans la parole de Dieu, c'est que les leçons que nous devons en tirer sont très importantes et que nous devons demander au Seigneur la grâce de pouvoir vivre ce que nous retirons comme un enseignement d'un tel passage. Vous savez, la chose la plus difficile pour nous, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu dans les moindres détails. Nous pouvons adhérer ici, avec la tête, à certaines choses. Mais Dieu désire que nous adhérions avec le cœur. Je veux dire par là qu'il faut que la parole de Dieu ne soit pas seulement une théorie que nous connaissons, que nous approuvons, mais que ce soit un principe auquel nous adhérons par une vie d'obéissance, une marche qui est en rapport avec la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ce passage où Ézéchias est atteint par la maladie m'a interpellé. Car voyez-vous, il ne s'agit pas ici d'un jugement pour lui, car il est dit que tout cela lui est arrivé alors qu'il accomplissait les actes de fidélité et qu'il était obéissant à la parole de Dieu. Ce qui veut dire donc que, vous savez mes frères et sœurs, une maladie n'est pas forcément la conséquence d'une désobéissance ou d'un péché dans notre vie. Dieu est souverain, affirme la parole de Dieu, et il fait ce qu'il veut. Et il nous demande à chacun d'entre nous d'être reconnaissant et de rendre grâce à Dieu pour toute chose dans notre vie. Pour toute chose. Je voudrais, en laissant un petit peu mon texte de côté un instant, vous montrer certaines expériences qui nous sont rapportées dans l'Écriture et qui mettent en relief que nous sommes parfois insensés quand nous remercions le Seigneur pour certaines bénédictions qui nous paraissent aller dans le sens de ce que désire notre cœur, et puis quand les choses vont en sens inverse de ce que la chair désirerait, nous oublions de rendre grâce à Dieu. Mais bien sûr, nous nous plaignons. Et la parole de Dieu dit de rendre grâce en toutes choses. Exemple. 2 hommes qui ont la même valeur spirituelle, Pierre et Jacques, se sont retrouvés les deux dans les mêmes situations. Pierre en prison, Jacques en prison. Pierre est délivré d'une façon miraculeuse, vous l'avez lu dans le livre des Actes des Apôtres. Jacques est décapité. Pierre vaut-il mieux que Jacques ? Dieu est-il injuste au point de permettre à l'un de continuer son service dans la victoire et de mettre fin à la vie de l'autre ? Nous savons tous dans le fond de notre cœur que ce serait blasphématoire de penser une chose semblable. Mettez-vous maintenant à la place de la femme de l'un et de l'autre. Puisque Paul dit, moi aussi je pourrais avoir une femme qui m'accompagne comme mes collègues, dont eux, Pierre et Jacques, avaient chacun une épouse. Et voilà Madame Pierre, pardon, qui dit, ah Seigneur, merci de m'avoir rendu mon mari. Vraiment, je découvre ta puissance. Vraiment, merci de ta fidélité. Je vais voir Madame Jacques. Pensez-vous qu'elle, elle se plaint ? Pensez-vous qu'elle, elle rejette la miséricorde de Dieu parce que son mari a passé par la mort, alors que Pierre, lui, a été délivré ? Pensez-vous que cette femme ait le droit de dire « Mais pourquoi lui ? Et pourquoi pas mon mari ?» Évidemment, moi je sais, parce que la parole de Dieu est un puissant témoignage. L'une et l'autre ont dû rendre grâce à Dieu. Savez-vous pourquoi ? Parce que l'une et l'autre savaient que Dieu ne se trompe jamais quand il permet quelque chose. Et vous savez ce qui est écrit dans le livre du prophète Jérémie ? Il est écrit, y a-t-il quelque chose qui survienne dans la vie que je n'ai pas permis ? Et il est bien précisé, bien ou mal ? Qu'est-ce que nous avons tendance à faire, nous ? Quand c'est bien, nous disons, ah, c'est Dieu. Quand c'est mal, nous disons, c'est le diable. Mais le diable peut-il faire quelque chose que Dieu ne le lui permette ? Si Dieu le permet, alors donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette semaine, dans le cadre de notre réunion Zoom sur Avignon, je rapportais le témoignage de trois jeunes garçons qui, en 1885, ont payé de leur vie la foi qu'ils avaient dans le Seigneur. Ils étaient âgés, ce n'est pas une légende, c'est un témoignage réel. Ils étaient dans le pays de l'Ouganda, et le plus jeune de ces adolescents avait 11 ans, et l'aîné 15 ans. Et il y avait un monarque qui était redoutable, qui persécutait les chrétiens, qui était absolument contre le christianisme. Et il en est arrivé un jour à prononcer cette sentence, puisque ces petits n'avaient pas voulu renier le Seigneur, eh bien, il les a fait périr. Écoutez bien de quelle manière. Les trois garçons étaient sur le lieu de supplice, ils devaient passer par le feu. Et les trois garçons ont demandé à un serviteur du roi de lui transmettre un message. Et ils ont dit simplement ceci. « Ô majesté, tu nous mets dans le feu pendant peu de temps. Nous resterons là dans le feu. » Et tout de suite après, nous serons dans les bras du Seigneur Jésus. Mais ils ont ajouté, dites bien au roi qu'un jour, s'il ne se repent pas, lui sera projeté dans un feu qui ne s'éteint pas. Et il leur a demandé qu'ils se repentent. Ils sont passés par le feu et ils sont morts tous les trois. Ce jour-là, 40 personnes ont donné leur cœur et leur vie au Seigneur. Pendant 2 ans, il y a eu des conversions suite à leur témoignage. Et plusieurs ont été amenés à donner leur vie simplement parce qu'ils avaient suivi le témoignage et l'exemple de ces jeunes gens. Mais quand j'ai lu cela, moi j'étais vraiment ému profondément parce que si ce n'est pas le travail de l'Esprit de Dieu qui permet à 3 adolescents de cet âge-là d'avoir un tel courage, je me demande qui pourrait communiquer une telle force. Mais en même temps, j'ai fait une comparaison. Et je me suis rappelé du récit qui se trouve dans le livre du prophète Daniel. Et vous vous souvenez des 3 amis de Daniel? Ils ont été jetés à cause de leur foi et de leur obéissance à Dieu, eux aussi dans une fournaise ardente. Et elle était chauffée à tel point que ceux qui ont projeté ces hommes dans la fournaise, eux, sont morts. Tellement la fournaise était chaude. Mais eux, pas un cheveu n'a brûlé. Seulement les liens. Et il y avait quelqu'un d'autre avec eux qui les protégeait des flammes. Alors je me suis posé la question, pourquoi eux? Et pourquoi pas ces petits? Y a-t-il une injustice en Dieu? Non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Mais il a fait concourir l'une de ses expériences comme l'autre à la manifestation de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, nous nous sommes habitués à croire que la bénédiction de Dieu, c'est toujours en faveur de ceux que notre chair peut ressentir comme bien. Mais Dieu ne se trompe jamais et tout ce qu'il permet, c'est toujours pour la manifestation de sa gloire. Alors je reviens à mon texte. Voilà Ézéchias, frappé de la maladie. Et là, je découvre la différence qu'il y a entre lui, qui sait qu'il ne lui reste plus que quelques jours à vivre, et également un autre homme qui arrivait à la fin de sa vie. Je veux parler de David, le roi David. Quand on lit dans l'Écriture les dernières paroles de David, qui lui aussi savait qu'il allait partir, et ce texte qui parle de David prononçant ses dernières paroles met en relief que cet homme se présente comme étant le chantre agréable à l'Éternel. Alors je me suis dit, tiens, voilà un exemple formidable. Voyez mes frères et sœurs, c'est plus facile pour moi de parler de cela très librement, puisque j'arrive aussi à un âge qui est respectable, vous le comprenez bien, et à cet âge-là, on peut plus facilement commencer à penser à ce qui est définitif. Et puis j'ai observé ces 2 hommes dans l'Écriture. Je vois David, il est là, déjà avancé en âge, il sait, parce que Dieu l'a préparé, qu'il doit partir bientôt. Il examine son cœur, et puis il y a tout un passage qui parle de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Puis j'ai été frappé, parce que il dit à un moment donné, vous trouvez cela dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 22, il dit à un moment donné, « Tu m'as traité, ô Dieu, selon ma justice. » Et quand j'ai lu cela, je me suis dit, « Ta justice, David ! Ta justice ! As-tu oublié, David, que pour sauver ta vie, tu as menti devant les sacrificateurs à Nob et que tout un village a été détruit à cause de ton mensonge. Tu parles de ta justice, David? Comment est-ce que tu peux parler de ta justice? As-tu oublié que tu as commis adultère avec la femme d'un ami qui était loyal? As-tu oublié que pour couvrir ton péché, tu as encore menti et tu es arrivé jusqu'au meurtre. Tu parles de ta justice, mais de quelle justice parles-tu, David ? De quelle justice ? Et puis je suis obligé de reconnaître, parce que un verset plus loin, il dit « Comme toi tu me vois, à tes yeux, Seigneur. » Ah, comme c'est réconfortant cela. Voyez-vous, mes frères et sœurs, nous aussi, nous devons penser à cela. Nous sommes souvent préoccupés par un tas de problèmes et de choses qui nous arrivent. Mais Dieu nous ramène toujours à notre vie personnelle, à notre vie individuelle. Il veut que chacun d'entre nous, nous soyons capables de nous examiner. Et il nous rappelle, tu sais, tu es comme les autres, un oiseau sur une branche. Un jour ou l'autre, je vais te rappeler, pense que tu vas devoir me rendre des comptes. Comment est-ce qu'on peut se trouver à ce moment-là ? Si je me retourne et que je jette un regard au rétroviseur, je vais me rendre compte qu'il y a des choses extrêmement négatives, des choses que j'ai peut-être cachées aux autres, des choses qui ne sont pas tellement loyales, tellement honorables, et je vais commencer à être dans l'angoisse. Écoutez, si je vous ai parlé de ça en ce qui concerne David, c'est pour vous ramener maintenant à Ézéchias. Voilà un homme qui a fait tout selon la volonté de Dieu, qui est fidèle. Mais quand il apprend qu'il va mourir, que nous dit la parole de Dieu ? Vous lirez dans 2 Rois, chapitre 20, il est effrayé, il parle, et vous savez ce qu'il demande à Dieu ? Il dit, Seigneur, regarde toutes les choses bonnes que j'ai faites, regarde comment j'ai été loyal, comment je me suis efforcé de faire ta volonté. Tout cela, il semblait, n'est-ce pas, que c'était logique qu'il le rappelle à Dieu. Et moi je dis, combien Dieu est bon. Parce qu'en parlant de cette manière-là, en fait, il cachait, dissimulait un véritable orgueil qui va se manifester plus tard, nous allons en parler. Mais là, il ne se rend pas compte. Mais Dieu lui fait grâce quand même. Et il dit, d'accord. Il appelle le prophète Isaïe qui était avec lui et qui lui avait dit, tu vas mourir. Ramasse toutes les affaires, arrange toutes les affaires, tu vas partir, c'est fini pour toi. Mais comme Esaïe part, Dieu l'interpelle, lui dit reviens et dis-lui que j'ajoute 15 ans à sa vie. 15 ans à sa vie. Ça veut dire que ce qui lui est arrivé, c'est arrivé à la 14e année de son règne. Il a régné 29 ans. 15 ans où il a pu continuer encore à servir Dieu. Il a été loyal, il a été fidèle, mais c'est ça qui est quelque chose qui doit nous instruire. Il a voulu changer l'horreur de Dieu. Et Dieu a fait un miracle pour lui. Il est dit qu'il y a eu un prodige, car en annonçant par la bouche d'Ésaïe, j'ajoute 15 ans à ta vie, il lui dit, voici le signe auquel tu reconnaîtras que ma parole est vraie. Parce que lui-même a demandé un signe, à quoi reconnaîtrai-je que je ne vais pas mourir ? Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu désires ? Est-ce que l'ombre sur les degrés d'Akaz doit continuer à avancer, peut-être plus rapidement ? Ou est-ce qu'elle doit reculer ? Vous vous rendez compte de la puissance de Dieu ? Pendant un temps, nous avons tendance à oublier cela. Tout cet univers qui est comme une horloge, Dieu l'a maintenu dans sa main. Tout s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Et tout ce qui marche dans ce monde est tenu dans sa main. Et c'est le contraire. C'est comme si Dieu faisait marche arrière. Et l'ombre a grandi dans les degrés. Vous savez, moi ça m'impressionne. Mais je me dis, quelle leçon ? Dieu, il recule dans notre vie, il efface dans notre vie. Tout ce qui est négatif, ça passe en arrière, il fait grâce et il lui donne 15 années de plus. Lui aussi, un peu comme David, s'est glorifié de cela. Mais malheureusement, la Bible dit qu'il n'a pas répondu comme il fallait à la bonté de Dieu. Je viens de vous parler de la deuxième épreuve, la maladie qui peut nous atteindre les uns et les autres, un temps fixé par Dieu, que Dieu peut changer parce qu'il fait ce qu'il veut, personne ne lui donne des ordres, il est tout puissant. Puis maintenant, il y a la troisième épreuve, et c'est la dernière. Et vous savez quelle est la troisième épreuve? Ce sont les amis qui viennent le voir. Ça ne vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle l'histoire de Job. Job, dans la première épreuve, qu'est-ce qu'il a eu à faire? À l'ennemi. L'ennemi est venu, et l'ennemi, il a anéanti ses serviteurs, et puis il a commencé par le troupeau de bœufs qu'il avait à son service. Il a détruit tout cela. À peine le serviteur était en train de dire à Job ce qui venait d'arriver, qu'il y en a un autre qui arrive, et il dit, tu sais, eh bien, le troupeau des brebis a été ravagé aussi par des Sabaïens, et ceux-là, ils ont tout anéanti, tout ton troupeau de brebis, et même tes serviteurs, ils ont été exécutés. À peine il termine, qu'il y en a un autre qui arrive. Il dit, oh, quel malheur. Eh bien, tu sais ce qui est arrivé? Les chameaux, enfin, tout le troupeau, quoi, il est passé. Et puis, c'est pas fini. Il y en a un qui arrive, et il dit, quel malheur, Job. Quel malheur. Un vent terrible a secoué la région. Et tes enfants étaient réunis, ils mangeaient et buvaient du vin ensemble, et ils étaient tellement heureux. Mais le vent a fait branler la maison, et elle est tombée sur eux, et ils sont tous morts. Écoutez Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Première épreuve, victorieux. Deuxième épreuve, la maladie. J'ai relu ce passage exprès et je m'aperçois qu'il est atteint d'un ulcère malin qui le gagnait depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Et cet homme a souffert terriblement. Les amis arrivent et ils sont déjà à une certaine distance, ils ne le reconnaissent pas. Tellement il est atteint par la maladie. Et ils ferment leur bouche. Ils restent là pendant 7 jours. Mais c'est quand même incroyable. Pendant 7 jours, ils sont restés à côté de Job, sans rien dire du tout. Là, au moins, c'était bon pour Job. Parce qu'il vaut mieux ne rien entendre que d'entendre des bêtises. Mais au bout de 7 jours, eh bien, Job est tombé. Et il a commencé à maudire le jour de sa naissance. Et ça, ça a été un déclenchement. Parce qu'à partir de ce moment-là, les amis lui ont dit, arrête un petit peu, hein. Si tu es malade, si tu es atteint comme cela, c'est qu'il y a le péché caché dans ta vie, examine-toi, etc., etc. Et il l'écrasait, l'enfonçait encore plus. Vous savez, comme certains, c'est les meilleurs chrétiens du monde qui viennent vous voir à l'hôpital et qui vous disent, « Ah, mais vous savez, j'ai connu quelqu'un, il était comme vous, eh bien, il est mort. » Quel encouragement, hein? Quel encouragement! Eh bien, lui, cet ami-là, de Job, ils agissaient dans cette même direction, dans ce même sens, et il disait, « Mais repens-toi, sinon, eh bien, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas mourir, etc. » Et lui, s'est défendu. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, qui peut se défendre devant Dieu? Qui? Il ne savait pas. Mais dans les replis de son cœur, il y avait l'orgueil qui était caché. Et quand Dieu s'est révélé à lui, alors il a vu les choses d'une manière différente. Car Dieu lui a dit, tu sais Job, au commencement de toute chose, quand j'ai posé les fondements de la terre, bien sûr, toi, si grand, si formidable, tu m'as aidé, n'est-ce pas? Et Job baisse la tête. Il dit, quand j'ai fait encore telle chose, T'as vu cet animal, si formidable, si grand? As-tu remarqué comment il est bâti? Heureusement que tu étais là, Job, tu m'as aidé, n'est-ce pas? Il baisse encore un peu plus la tête. Puis d'un seul coup, il éclate. Et il dit, ah, mon Seigneur, comme j'étais stupide. Et il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Quand une épreuve a pour but de nous amener à avoir une plus grande révélation de qui est Dieu, alors on peut bénir le Seigneur d'avoir permis telle épreuve dans notre vie. Or, c'est exactement ce qui s'est passé pour Ézéchias. Parce qu'il est dit, Dieu parla à Ézéchias. C'est-à-dire que dans la difficulté, dans la souffrance, et aussi dans l'angoisse, Dieu parle à son cœur. Quand Dieu parle à notre cœur, vous savez, ça change tout dans notre vie. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience. Quand vous êtes seul à la maison, face à quelque chose qui vous inquiète, qui vous trouble, puis que dans votre bureau, dans votre chambre, ou dans le secret d'un lieu, quel qu'il soit, où vous cherchez le Seigneur, il y a sa douce voix qui se fait entendre. Alors vous avez l'impression que rien de mal n'existe autour de vous et que tout vous est possible parce que Dieu est là. Et Dieu lui a montré comment il allait être délivré pendant 15 ans. Mais, et je vais terminer par là, mais les amis sont arrivés. Vous savez, les gens de Babylone, ils sont arrivés parce qu'ils ont appris le prodige que Dieu avait fait pour Ézéchias. Mais ils ne venaient pas simplement à cause du miracle que Dieu avait fait pour Ézéchias. Mais ils venaient parce que leur désir, c'était que Ézéchias soit associé avec eux, parce qu'avec eux, il y avait un plan particulier, c'était la destruction des Assyriens. Et là, malheureusement, eh bien, Ézéchias est tombé dans le panneau. Et il leur a simplement dit, vous savez, c'est formidable ce que Dieu a fait pour moi. Regardez comme je suis béni, comme je suis riche. Regardez l'abondance. Et il a ouvert les portes de ses trésors. Il leur a fait voir toutes les choses qu'il possédait, toutes les choses qui avaient été permises par la puissance de Dieu. Vous savez, rappelons-nous, mes chers frères et sœurs, qu'il est écrit quelque part dans la Bible, notamment dans l'Épître aux Corinthiens, « Si vous avez reçu, de quoi vous glorifiez-vous ? » Parce que c'est Dieu qui nous accorde tout. Est-ce que nous pouvons nous glorifier même des valeurs spirituelles que les autres nous prêtent à tort ? Parce que nous sommes tous, pardon de vous le dire en face, nul. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul homme qui est juste, pas même un seul, mais tous sont condamnables. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Il nous couvre de sa grâce. Et eux, eh bien, ils ont été éblouis, ils ont vu toutes ces choses. Et lui, il était fier. Il pouvait dire, regardez, quel homme formidable je suis. Vous savez, c'est terrible de s'enorgueillir de ce que l'on a pu faire dans le passé. N'oubliez pas que nous marchons avec Dieu jusqu'à la fin de notre vie, pas après pas. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a permis que nous accomplissions dans le passé et restons dépendants de lui pour le futur. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui est attaché à l'être humain. Je n'y échappe pas. Et c'est la chose sur laquelle nous devons veiller d'une manière particulière. Ésaïe arrive, il regarde son collègue, il regarde le roi, son ami, celui pour qui et avec qui il a tellement de fois prié, celui qui a demandé à Dieu la délivrance de Sanchérib. J'ai oublié de vous dire, l'ennemi il a été vaincu, vous savez ce qui lui est arrivé à l'ennemi ? Il a dû partir parce qu'un ange de l'Éternel a frappé l'armée d'une épidémie. Ils ont dû rebrousser chemin à toute vitesse. Et quand Sanchérib est arrivé chez lui, quelle chose terrible. Le fruit de ses entrailles, ses deux fils, l'ont fait mourir. Et il est mort d'une manière honteuse. Vous voyez de quoi ça lui servait de vivre dans l'orgueil. Mais quand Ésaïe vient vers son ami, il lui dit, « Dis donc, tu as eu la visite des ambassadeurs de Babylone ?» Et il dit, « Oui, tu es tellement honoré, ça, les ambassadeurs de Babylone. Qu'est-ce que tu leur as fait voir ?»« Ben, je leur ai fait voir ça, je leur ai fait voir ça, je leur ai fait voir tout ce que j'avais accompli. » Eh bien, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas rendu gloire à Dieu comme il fallait, tous les habitants de Juda seront à la merci du roi de Babylone. Ils seront transportés ailleurs. Seulement, encore une fois, la grâce manifestée pour lui, ça ne se fera pas de ton vivant. Mais quelles conséquences tragiques. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais qu'un péché, quel qu'il soit, a toujours des conséquences terribles, et dans notre vie, et dans la vie des autres. Que Dieu nous aide à comprendre, et puis que nous puissions vraiment nous tenir devant lui, pour que, humblement, nous puissions recevoir de lui ce dont nous avons besoin pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole nous montre la voie que nous devons suivre et nous sommes humiliés profondément parce que nous réalisons que bien souvent, c'est en comptant sur notre propre justice que nous avons avancé. Et c'est la raison aussi pour laquelle tu as permis que tant d'échecs soient notre partage. Et nous voulons te rendre grâce ce matin pour les bonnes choses dans notre vie, comme pour les mauvaises, pour lesquelles nous te demandons aussi, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, comme tu l'as fait pour Ézéchias, et que tu nous amènes vraiment à réaliser combien nous te devons tout, et qu'en dehors de cette dépendance d'avec toi, nous ne pourrons jamais t'honorer et te glorifier comme tu en es digne. Alors nous voici, mes frères et sœurs et moi-même, nous te disons, Seigneur, prends notre être entier et glorifie-toi au travers de nos vies. Nous t'offrons notre cœur, notre vie, nos forces, nos talents, toutes les choses que nous pensons être nôtres, tout cela nous le mettons au pied de ta croix. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous amener à une authentique et véritable vie de résurrection en toi. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous te louons parce que nous croyons que tu es fidèle et que tu entends nos cris. Amen.